Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. France Culture, 19h01, bienvenue dans Soft Power, magazine des industries créatives numériques en direct jusqu'à 20h depuis le studio numéro 1 au 8e étage, la maison de la radio. Bonsoir à tous. Donc, dans cette émission, nous serons jusqu'à 20h avec Johan Eufnagel, le directeur du journal Libération. Bonsoir, Johan.
Bonsoir, Frédéric.
Peut-on dire que vous avez grandi avec Libération et que même si vous l'avez quitté quelques années pour fonder 20 Minutes ou Slate, vous êtes finalement revenu à la maison?
Je suis revenu dans une de mes maisons, oui, c'est vrai. J'ai grandi beaucoup à Libération. J'ai fait mon premier stage à l'été 89. Je suis revenu en stage en 90. Déjà, j'avais ça dans le sang. C'était le journal que lisaient mes parents. Donc c'est vrai que j'avais un peu ce Libération en moi, et quand je suis revenu il y a maintenant un an et demi, c'est avec un autre état d'esprit que la première fois que je suis arrivé, évidemment.
Mais sur ce parcours, ce serait quoi pour vous l'identité, l'ADN de Libération ?
La liberté. La liberté la plus absolue d'écrire ce qu'on a envie d'écrire. La liberté la plus absolue aussi dans les rapports qu'on a au sein de l'équipe, et ça c'est une très très grande richesse. Parfois c'est compliqué, évidemment, mais aussi la capacité pour un journal de savoir s'engueuler, de savoir lancer des débats, de pas être d'accord avec les lecteurs aussi. Les lecteurs nous font bien comprendre. Il y a une très très grosse responsabilité d'être à Libération aussi pour ça, notamment vis-à-vis de ces lecteurs qui nous font bien comprendre souvent que on va trop loin, on va pas assez loin, ou on n'est plus comme avant.
Johan Eufnagel, directeur de Libération, est mon invité jusqu'à 20h. Avec vous, nous évoquerons la situation de Libération, votre projet, les évolutions à venir, avec des annonces peut-être. Et plus largement, nous discuterons de la transition numérique qui affecte les médias en général et Libération en particulier. Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité du numérique, des médias et des industries créatives, avec nos chroniqueurs. Ce soir, Anaïs Ginori de La Repubblica. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Avec vous et Johan Eufnagel, on évoquera The Independent, Royaume-Uni, qui cesse d'être un quotidien papier et ne sera bientôt plus qu'un journal numérique. On reviendra aussi sur la nomination, on l'a dit tout à l'heure, de Audrey Azoulay au ministère de la Culture. À 19h20, l'alphabet numérique, notre séquence décryptage du web. Ce soir, nous parlerons des geeks. Avec vous, David Perron, vous leur avez consacré votre thèse et un livre, La Culture Geek. Bonsoir, monsieur.
Absolument, bonsoir.
Johan Eufnagel, vous aussi, vous êtes un geek, hein, finalement, bientôt comme tout le monde, comme 60 millions de Français, puisque tout le monde est geek. Ce sera une partie du sujet dont on parlera tout à l'heure. Et puis toujours au sommaire de cette émission, nous commencerons Soft Power ce soir par un reportage au Moyen-Orient sur un groupe de jeunes producteurs et animateurs de télévision qui se moquent de l'État islamique, de Daesh, sur YouTube. On écoutera également Viavner et Beyoncé, ainsi que deux extraits de séries télévisées dont on parle beaucoup cette semaine, Vinyl et Baron Noir. Tout ça dans Soft Power jusqu'à 20h, à suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer, ainsi que sur Instagram, sur Medium, sur Vine, sur Facebook, en podcast et sur France Culture en direct. Pour commencer Soft Power ce soir dans l'actualité, nous nous intéressons donc à un programme sur YouTube. Depuis quelques mois, une émission télévisée originale connaît un succès impressionnant au Moyen-Orient et en Irak, en particulier le Al-Bashir Show, écrit par des Irakiens en exil en Jordanie. L'émission est tournée dans un modeste appartement de la banlieue de Amman par un groupe donc de jeunes journalistes qui s'amusent en se moquant des terroristes de Daesh. Show satirique, humoristique, il a déjà réuni plus de 35 millions de personnes sur YouTube ou sur des chaînes satellitaires irakiennes. L'objectif de l'animateur et producteur Ahmad Al-Bashir, faire en sorte que les jeunes Irakiens ne rejoignent pas l'État islamique et réfléchissent au terrorisme. Johan Eufnagel, vous êtes directeur de Libération. Vous pensez quoi d'un show télévisé de ce type comme le Al-Bashir Show?
Je crois qu'il faut essayer de rire de tout, surtout quand les choses sont tragiques. L'internet aide beaucoup à ça aussi. Alors là, c'est évidemment pas une émission du web, mais c'est dans cette culture dont on parlera aussi tout à l'heure. Je crois que réussir à rire de tout, réussir à rire des choses tragiques, on revient aussi sur Charlie Hebdo, qui réussit aussi à rire des choses les plus tragiques, même choses qui leur sont arrivées.
Charlie Hebdo, que vous avez hébergé à Libération.
Qu'on a hébergé pendant quelques mois.
Après les attentats.
Après les attentats, je crois que c'est quelque chose d'assez essentiel. Ça montre que la vie est plus forte que la mort et que ces gens-là, on peut les combattre aussi autrement qu'avec des armes, mais avec l'arme du rire. Et je pense qu'on en parlera, mais il y a eu quelques semaines un truc assez intéressant sur Internet. C'est quand les utilisateurs du forum 4chan ont commencé à remplacer les barbus d'État islamique par la figure du petit canard de salle de bain là, et qui ont réussi comme ça à transformer l'horreur, le crime, la barbarie en quelque chose d'un peu plus amusant, un peu plus soft.
C'est donc aussi au fond du soft power que ce show Al-Bashir, Anna Ginouri, vous êtes correspondante à Paris de La Repubblica, le journal, le quotidien italien. Vous trouvez que ce type d'émission peut être efficace éventuellement?
C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que ce genre de blague, d'humour vient de...
Un peu potage d'ailleurs, étudiant,
voilà.
Très, très jeune.
C'est pas forcément ce qu'on peut aimer, mais c'est sûrement intéressant pour justement parce que ça s'adresse aux jeunes, ça s'adresse avec un média comme Internet, donc à tous. Et ça vient de ce monde, donc en Jordanie, en Irak. Et c'est donc, on a beaucoup dit que l'humour de Charlie Hebdo était passé mal dans d'autres cultures, d'autres pays.
Là, ils ont aussi leur forme d'humour à eux, finalement.
Voilà, et donc ça, je trouve ça très intéressant. Et honnêtement, je ne sais pas si ça marche, mais c'est sûrement une occasion, une opportunité qui n'existait pas, enfin, qu'on n'avait pas encore vue.
Et pas auparavant, sans Internet, sans YouTube, sans ces chaînes satellitaires privées qui rendent possible ce type de programme, au fond globalisé, qui émettent depuis la Jordanie via des télévisions de Dubaï, par exemple, vers l'Irak.
Oui, du coup, exactement, c'est des contenus que nous aussi on découvre. On découvre aussi qu'il y a, toute une autre façon de traiter le sujet. Et surtout, voilà, l'idée que l'humour est quand même l'arme de l'intelligence. Et ça, c'est bien que ça ne soit pas seulement en Occident qu'on le dise et qu'on le pratique. Voilà, donc je trouve que c'est un beau signal. Et le succès aussi qu'on rassure aussi d'une certaine manière.
Ça fait beaucoup penser à ce programme qui avait été initié par Facebook par les habitants d'une petite ville de Syrie qui s'appelle Kaframbel ou Kanfrabel, je crois, qui avait justement réussi avec des petits programmes via YouTube, on a envoyé des messages au monde entier pour que les gens les soutiennent, ne les oublient pas. Et ils faisaient ça avec un humour assez féroce et c'était assez jubilatoire de voir que même sous les bombes, on arrive encore à rire.
Puis il y avait aussi le fameux show télévisé aussi également sur YouTube en Égypte de Bassem Youssef qui a suscité beaucoup de réactions, qui a accompagné la chute non seulement de Moubarak mais surtout de Mohamed Morsi et qui aujourd'hui d'ailleurs est interdit par le régime égyptien. Nous sommes en Jordanie dans un appartement discret et secret de la banlieue de Amman. C'est là que nous avons rencontré il y a quelques jours l'équipe du Al-Bashir Show dans leur studio clandestin. Reportage.
أهلاً بكم في البشير.
Nous sommes à Amman, près du 5e Circle. 4 jeunes réalisateurs, producteurs, animateurs, acteurs d'un show télévisé baptisé Al-Bashir Show sont en train d'écrire, de préparer le scénario d'un show qui va être tourné un peu plus tard et qui actuellement est très suivi sur Internet, plus de 26 millions de vues online. Al-Bashir Show est réalisé ici, dans cet appartement, par le producteur Hamad Al-Bashir. Tout le monde est là. Il est 20h30, ici à Amman. What's your name?
It's Ahmed Hamdi. I'm Iraqi, living in Jordan.
Je suis Irakien, mais je vis en Jordanie.
Because of the war.
À cause de la guerre.
Almost everyone is Iraqi.
Presque tout le monde est like Irakien ici. Homeland. On est presque comme à la maison.
Ahmed Al-Bashir, he writes the
Ahmad al-Bashir écrit quelques séquences pour chaque épisode, puis on se réunit pour écrire l'ensemble de l'émission. Au début, on met nos idées en commun, puis on écrit les blagues. Par exemple, moi j'écris un petit gag, puis un collègue le développe, et après ça, ça devient tout l'épisode.
From our writing, we figure out some sketches.
À partir de là, on met au point des sketchs, par exemple sur Daesh ou pour l'émission, pour les journalistes. J'écris et puis mes deux collègues écrivent une séquence et ainsi de suite.
Je ne sais pas les animaux, mais les animaux. ومن ضمن مكرمات الخليفة تم السماح للنساء بالخروج إلى الشارع لمدة دقيقتين ودقيقة بدون محرم على أن لا تتجاوز مسافة رأس الشارع.
Je m'appelle Ahmed al-Bashir. Je travaille en journalisme. My name is Ahmed al-Bashir. I work as a comedian.
Je travaille comme comédien et j'ai une émission très populaire en Irak, le Al-Bashir Show.
Pourquoi vous le faites ici à Amman en Jordanie, ce show?
If we make the show in Iraq, it will be very tough to.
Si nous faisions l'émission en Irak, ce serait très difficile de franchir la ligne rouge de parler franchement devant tout le monde. La démocratie en Irak est récente, elle a 30 ans, c'est un bébé. Donc il faut du temps pour que tout le monde comprenne qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, parce que c'est ça, la démocratie. Étant donné la situation en Irak en ce moment, avec Daesh, les milices, les politiciens corrompus, ça serait difficile pour nous de travailler là-bas et de nous exprimer de manière aussi précise. Ce serait très dangereux, en fait.
Comment est-ce que vous définiriez le chou? Qu'est-ce qui se passe dans cette émission?
L'émission essaye de faire changer la position des gens. Elle les invite à réfléchir profondément avant de décider quoi que ce soit, avant de rejoindre Daesh ou de rejoindre les milices ou de voter. Nous essayons de montrer la vérité aux gens, la vérité du monde politique, la vérité parfois de la corruption, de l'extrémisme, des choses mauvaises. Nous tâchons de faire réfléchir les gens pour les empêcher de faire de mauvais choix.
L'humour est une manière d'expliquer les choses.
The comedy is the best way to send the message because
la comédie c'est la meilleure manière de faire passer un message car en Irak entre 52 et 60% de la population a entre 15 et 32 ans.
These guys they will never watch serious show.
Ces jeunes gens, ils ne regarderont jamais d'émissions sérieuses, les informations sérieuses.
They want something to laugh about and then and they have the message because this is the best way they think that they will get it from.
Ce qu'ils veulent, c'est regarder quelque chose qui les fait rire. Et avec la comédie, on peut mélanger des choses sérieuses à un propos comique et ça permet de faire passer un message sans que ce soit ennuyeux.
Et là, ça c'est la salle de montage, il y a une salle où on peut se déguiser, se maquiller, il y a des habits, puis il y a le grand studio, c'est organisé comme ça ici.
This is the editing room. This is where we edit.
Oui, ça c'est la salle de montage, c'est là où nous montons les sketchs et les épisodes.
Props that we need in the episodes.
Et là, ce sont like les accessoires dont nous avons besoin pour les épisodes, des postiches, des perruques, des tenues traditionnelles, parfois des armes, des lunettes de soleil, tout. Et à l'intérieur, il y a un studio pour l'émission et aussi un fond vert qui nous permet de tourner les sketchs qui se passent dans le désert, dans une grotte ou une scène de bataille.
Et là, vous allez commencer à filmer?
Yeah, we're going now to shoot the news for ISIS. They have something new.
Oui, là nous allons tourner le faux journal télé de Daesh. Un nouveau sketch pour la séquence Ne faites pas ça.
So now we're going to shoot.
On vous suit. Sur le plateau, l'équipe se prépare. Les caméras ont été montées, les lumières sont allumées. On est déguisé. On a pris tous les ustensiles qui seront nécessaires, les armes à feu. Et le show va pouvoir commencer.
Shabab! أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج الجريدة الزراعية. عزيزي الفلاح، عزيزتي الفلاحة، لا تهدر الماء بالآيس باكيت تشالنج.
Voilà un reportage sur le Al-Bashir Show pour Soft Power en Jordanie, traduction Mathilde Wagman. Vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h, magazine des industries créatives numériques de France Culture. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à nos deux podcasts, Soft Power et l'alphabet numérique, sur le site franceculture.fr ou sur iTunes.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Suite de l'actualité ce soir, avec deux autres sujets. Le quotidien The Independent au Royaume-Uni qui cesse de paraître en papier et sera seulement donc sur le web. Et une nouvelle ministre de la Culture, Audrey Azoulay, techno assez peu connue d'ailleurs, qui a hérité d'un Marocain presque par hasard. Johan Fugnagel, vous êtes directeur de Libération. Vous pensez quoi de cette nouvelle ministre de la Culture et de la Communication, de sa nomination? C'est un peu votre ministre de tutelle finalement.
Ben rien, je vais rien vous dire Frédéric, je ne la connais pas, donc je vais éviter de dire des choses bêtes sur quelqu'un que je ne connais pas. Non vraiment, on va attendre de voir ce qu'elle va, comment est-ce qu'elle va appréhender la question des médias. Je crois qu'il y a pas mal de sujets qui concernent surtout l'audiovisuel.
Elle connaît bien le cinéma, ouais, elle vient du CNC notamment.
Donc ça c'est déjà un bon point pour cette partie-là, hein. On sait qu'il y a beaucoup de questions... qui vont être à travailler dans les années à venir, notamment sur le financement du cinéma. Mais sur la presse, on va attendre de voir ce qu'elle a à dire.
Anaïs Ginori, vous êtes correspondante à Paris de La Repubblica. Vu d'Italie, même si vous habitez en France, ce remaniement ministériel, en particulier cette nomination culturelle, vous paraît un coup, vous paraît habile, vous paraît un effet de manche, si on peut dire?
Et déjà, oui, on la connaît très peu, donc on va juger. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre toujours quelle liberté, quelle autonomie, et surtout au niveau des moyens, le budget du ministère a chuté.
De manière considérable.
Voilà, donc c'est aussi ça, les signaux, ils ne sont pas seulement la personne, c'est aussi les moyens qu'on lui donne. Et puis bon, après, on se rappelle, enfin en tout cas moi j'ai le souvenir de cette scène à la sortie du Conseil des ministres qui avait été avec Fleur Pellerin après sa nomination. Donc j'espère qu'au moins, pour Audrey Azoulay, on lui épargnera la petite scène du Premier ministre et du Président.
Qui lui explique comment parler... un peu naïvement au milieu culturel. Ouais.
Voilà, donc ça, je pense que
extrait
c'était quand
même... Extrait du film de Yves Jolland.
Oui, donc c'était assez révélateur de ce que, en tout cas, pour l'ancienne ministre, la précédente ministre, quel était l'état d'esprit qu'avait le gouvernement et le Premier ministre, et peut-être l'Élysée. Donc c'est au niveau de ça un peu que se joue, je crois, aussi le jugement qu'on pourra avoir sur la nouvelle ministre.
Autre point d'actualité, Johan Fugnagel, vous êtes directeur de Libération, qui c'est un quotidien qui existe encore. Hein, pour combien de temps, nous verrons en papier. En revanche, un journal qui est assez proche de vous, finalement, pas seulement, mais pour partie, The Independent, au Royaume-Uni, vient de décider, d'ici quelques semaines, il disparaîtra des kiosques pour être seulement numérique. Vous en pensez quoi? Et est-ce qu'au fond, l'avenir, vous l'avez dit parfois dans certaines interviews, comme si l'avenir de la presse était nécessairement ou presque uniquement numérique?
En tout cas, c'est un moment symbolique. Hein. C'est pas la première fois qu'un journal en papier disparaît. C'est déjà arrivé en France.
Oui, puis il y avait Newsweek, mais après Newsweek,
voilà,
est revenu en papier.
Puis, Newsweek va encore avoir pas mal d'évolutions.
C'est-à-dire qu'on se cherche là, quand même beaucoup.
On se cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup. surtout sur un journal comme The Independent, qui est un journal très récent. Alors, je crois qu'il a été fondé en 86 ou 87, dans un pays où la presse quotidienne papier est encore très très puissante. Je connais pas encore les tirages du Daily Mail, du Sun, qui se comptent encore en centaines de milliers, ce qui est pas le cas en France, ce qui n'a jamais été vraiment le cas en France pour la presse quotidienne. Là, c'est quand même un moment assez important, puisque ça veut dire qu'il n'y a rien de fait finalement, et que du jour au lendemain, un quotidien papier peut évidemment disparaître. Alors les raisons sont multiples, hein. On pourra parler de Libération à un moment. Pour l'instant, c'est clair que Libération
reste...
C'est
même le sujet du soir.
C'est même le sujet
on
du soir.
On va en parler, oui.
Et Libération reste aussi un quotidien papier.
Anaïs Ginori.
Oui, c'est vrai que c'est
on pas... peut imaginer que La Repubblica aussi sera un jour uniquement numérique.
Ben, c'est tout. Oui, bien sûr. Je pense que c'est au niveau des revenus que ça génère aussi. On sait que pour l'instant, en tout cas dans beaucoup de journaux, et je pense qu'on va en parler pour Libération, c'est encore la plupart des revenus viennent encore du papier, mais c'est vrai que c'est la chute est forte, et donc il y aura forcément un moment de basculement. Il y a des journaux aux États-Unis aussi qui sont passés que sur Internet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi il y a des sites qui, par exemple comme de Politico, qui font du papier.
Politico,
sont, oui. De Politico, qui est donc un site américain qui d'ailleurs maintenant a ouvert
à Bruxelles.
Et eux, ils font je crois que c'est hebdomadaire ou mensuel, ils font une édition papier. Donc il y a quand même, enfin voilà.
Des allers-retours complexes.
Voilà, hein. Qu'on peut aussi considérer.
Sur des niches très particulières, Politico n'existe, je crois, qu'à Washington, oui, et encore dans l'enceinte très, très fermée des lieux de pouvoir,
et
Bruxelles, probablement la même chose. En tout cas, je n'ai pas encore vu l'édition de Politico en papier. N'est pas arrivé en kiosque en bas de chez moi. Kiosque en bas de chez moi qui n'existe pas.
C'est par abonnement, oui. C'est pour
Mais il y a un usage encore du papier.
Où pour ne pas avoir de kiosque.
À Montreuil, comme beaucoup de gens.
Allez, on termine l'actualité ce soir dans Soft Power avec deux séries télévisées, une américaine et une française.
When I started in this business, rock and roll was real and pure.
Mr. Finestra, is there a problem with the document?
I started this company from nothing.
Right, and now we're selling it.
I'm talking about our dreams, man. You don't understand.
Okay, here's what I do understand, Richard. You're high.
Yeah, well, so what? Hell!
It's a privilege to do this job, to introduce the world to new music, to shape the culture.
Richie, we're going to be bankrupt in a month.
Going in a new direction, trying to bring us into the future.
While you're over there in the future, I'm here in the present trying to keep the lights on.
Nick, we're about to turn a corner.
That's exactly what the Nazis told my Uncle Isaac. Showers, right around the corner.
Heaven knows they want to bring you apart.
Voilà un extrait de la série télé Rock, co-signée par Martin Scorsese et Mick Jagger, qui commence d'ailleurs ce soir sur HBO aux États-Unis et demain en France sur OCS. Joanne Vnagel, vous êtes directeur de Libération. Ce week-end, Libération fait sa une justement sur les séries télévisées. C'est un script, comment dire, qui consiste à décrire, je dirais, la vie rock, hein, quand le rock était une religion et un mode de vie. Au fond, c'était le Libé de Serge Julie.
Oui, vous attaquez fort, Frédéric. Oui, et puis aujourd'hui.
Mais c'est vrai
que Libération est un journal qui a été et qui reste un journal qui traite l'actualité culturelle dans toutes ses dimensions, et notamment la musique, mais pas seulement la musique. Et aujourd'hui, les séries. On a fait effectivement notre dossier de une sur les séries aujourd'hui, qui sont un des plus grands vecteurs de culture populaire aujourd'hui, probablement avec le jeu vidéo. Tout le monde regarde des séries. Il y a 400 séries, je crois, qui vont être produites en 2016, ce qui fait évidemment plus d'une série par jour. On est passé dans un autre temps de la série. C'est plus comme justement au temps de Serge Julie où il y avait Dallas à la télévision et Magnum. Aujourd'hui, on
et Dynasty.
Aujourd'hui, on a du très très lourd. On a, voilà, quand quelqu'un comme Martin Scorsese nous fait un cocktail New York Cocaine Rock sur une série, je pense que ça donne envie.
Avec le fils de Mick Jagger, James Jagger, qui joue dans Vinyl. C'est aussi, pour parler plus industrie culturelle, c'est aussi une arme lourde de HBO pour contrer Netflix. Alors HBO a eu des séries efficaces, je pense à Game of Thrones ou Sesame Street, mais en l'occurrence c'est un moyen de re-rentrer dans le jeu à un moment où effectivement Amazon, d'une part, avec Amazon Prime et ses séries, et d'autre part Netflix, est un peu en pointe.
Oui, alors c'est vrai qu'en plus avec des montants alloués à la création de nouvelles séries qui sont absolument démentes, je crois qu'on parle de 1,5 milliard pour Netflix et plus de 6 milliards pour Amazon, c'est juste complètement dément. C'est un nouvel Hollywood qui est en train de se recréer là autour des industries.
Une nouvelle télévision, finalement.
Et une nouvelle télé, oui.
Alors, du côté français, on existe aussi, peut-être plus modestement, mais malgré tout, avec des budgets certes plus faibles, mais avec une certaine efficacité. C'est le cas, Anaïs Ginori, Joanne Vnagel, de Baron Noir, cette série qui a été diffusée cette semaine sur Canal+, série de Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafont depuis lundi. Un député du Nord, du nom de Philippe Ricouart, essaye d'avoir une carrière politique à peu près normale, mais de se venger aussi et d'avoir une espèce d'ascension sociale inversée après un échec, et de prendre sa revanche, on pourrait dire.
C'est un peu un House of Cards
français. House of Cards français, voilà, toute proportion gardée.
Oui, je ne sais pas quel est le résultat, mais c'est vrai que, en tout cas, la France sur les films politiques...
En audience, c'est pas extraordinaire, voilà, oui, pour le dire gentiment.
Mais après, c'est vrai que sur ça, la France a quand même eu beaucoup de films qui parlent de politique. Enfin, il y a eu, on se rappelle, c'était pas une série, c'était vraiment un film, l'exercice du pouvoir. Et je trouve que la réflexion sur voilà, cinématographique sur la politique, par contre, en France, n'a pas vraiment beaucoup à envier aux États-Unis.
Johan ?
Oui, non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit aussi aujourd'hui, plus dans la partie création, que les Français se mettent au diapason de ce qui se passe aux États-Unis avec des showrunners, avec des salles d'écriture qui étaient un peu le péché mignon des séries françaises où c'était un peu plan-plan. Là, on voit que, par exemple, le Bureau des légendes a été confié à Éric Rochant, qui est un cinéaste traditionnel qui a fait de très bons films, et on voit comment aujourd'hui on essaie de faire des séries un peu plus modernes.
J'ai 7 heures. 7 heures pour faire le ménage cette nuit à l'OHL. Faut que je trouve du cash pour combler le trou. Pendant la campagne, on a cramé un paquet d'oseilles.
Mais c'est qui ce type-là, celui qui t'a prévenu?
C'est un ami, c'est un flic. Un gars du Nord, c'est un mec bien. Un mec de gauche.
Ouais, c'est pas pour la gauche qui va risquer sa carrière, quand même.
Regarde-moi l'autre, là, aux années. Tu sais qu'il m'a fait 20 minutes sur les affaires. 20 minutes. C'est salopard.
Qui c'est qui pourrait nous aider cette nuit?
Mais on boucle dans le rouge, tu le sais aussi bien que moi, Philippe.
Et parmi les patrons qui soutiennent, il n'y en a pas un qui pourrait...
Non, c'est trop risqué, ça. Bon, alors qu'est-ce que tu proposes?
Bon, je vais me démerder tout seul pour trouver du fric d'ici demain, c'est plus sage. D'accord, j'aurais jamais dû parler de tout ça. La seule chose qui doit te préoccuper maintenant, c'est de changer le pays.
Non, qui doit nous préoccuper? Parce que moi, je vais l'Élysée, toi, tu vas à Solferino. Ouais.
Tu oublies tout ça?
Merci, Philippe. Ouais.
Tu oublies?
Voilà, 19h26 sur France Culture, vous êtes en direct, on est avec Johan Huvenagel, directeur de Libération, jusqu'à 20h. Et dans un instant, on parle de la culture geek.
Dans mon spectacle, je parle de plein de trucs, un peu comme dans mes vidéos. Je parle de sujets qui nous concernent tous, je parle un petit peu de ma vie aussi, notamment de mon métier un petit peu bizarre.
Un petit son à recaler. L'alphabet numérique, c'est la séquence qui suit maintenant. Alphabet numérique comme chaque dimanche, séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, de ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Alors ce soir, nous avons choisi d'évoquer le mot geek ou geeks au pluriel avec vous, David Perron. Vous êtes chercheur, auteur de Culture Geek, un ouvrage publié aux éditions FYP, ouvrage tiré de votre thèse justement sur la culture geek. On peut faire une thèse sur les geeks?
Visiblement, on peut. Moi-même, j'y suis arrivé un petit peu par hasard, mais j'ai eu de la chance. Et oui, voilà, le livre et la version, on va dire, moi j'aime bien dire director's cut de la thèse. C'est-à-dire,
la version courte, voilà, la version lisible. Courte,
lisible, plus accessible. Et puis voilà,
Je confirme, c'est lisible, c'est facile à lire, c'est un livre intéressant.
Merci.
Alors, on va définir ce terme de geek, ensuite on l'expliquera et puis on en débattra ensemble. Peut-être pour commencer, c'est une question banale, mais pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, qu'est-ce qu'un geek?
Il y a énormément de définitions du mot geek, évidemment. Alors, je vais en faire des courtes.
Sans refaire toutes l'étymologie depuis le Moyen-Âge, vous le faites dans le livre.
Oui, alors, il y a une définition frustrante qui serait pour moi une définition que j'aime bien quand même, qui est toute personne qui se définit comme geek est un geek, finalement, parce que je ne veux pas forcer les gens à rentrer dans des cases de
c'est
force.
C'est comme ça qu'on a 60 millions de geeks en France.
Exactement, mais ça peut être intéressant de discuter de ça. Et après, évidemment, il y a une définition qui est un peu plus transversale, qu'on retrouve dans les interviews que j'ai fait avec justement des gens qui se définissent comme geek, qui serait en gros passionné de deux pôles, mais qui se rapprochent, c'est imaginaire fantastique. Science-fiction, heroic fantasy, jeux vidéo, etc. Et culture numérique, internet, informatique.
Alors le terme est entré en tout cas dans le Petit Larousse en 2010, comme qu'on peut l'utiliser en France. Mais quand on en fait l'étymologie, on ne va pas remonter encore une fois jusqu'au Moyen-Âge, puisque vous faites cette histoire assez longue, mais on le retrouve, une des mentions peut-être les plus intéressantes, c'est lorsqu'on le trouve dans une lettre de Jack Kerouac, donc écrivain américain de On the Road, la Beat Generation, dans une lettre datée de 1957 qu'il adresse à Allen Ginsberg. Ce qui, au fond, nous emmène vers cet univers contre-culturel qui est très lié à la culture geek.
Oui, et en même temps, de la part de Kerouac, c'est une moquerie de dire des geeks. Une moquerie gentille, pas forcément méchante, mais en fait, il dit ça à l'occasion d'une rencontre qu'il va faire avec des étudiants d'université américaine. Et il dit à son éditeur, j'espère qu'on ne va pas trop poser des questions de geek dans le sens
trop spécialisé,
trop sur pointilleux sur des détails et qui sera plutôt des questions un peu plus élevées en termes de débat. Et il a un peu peur de ça. Et donc ça évoque très bien ce qu'on aura 30 ans plus tard avec les fans de Star Trek dans les conventions qui sont parodiés des dizaines de fois sur YouTube. Et
comment on en arrive là? Comment de Kerouac, disons, pour prendre cette date de départ parmi d'autres, comment on en arrive au mot moderne?
Vous l'avez dit, c'est très lié à la contre-culture et aux cultures jeunes américaines. C'est-à-dire, c'est un mot d'argot geek qui existe depuis assez longtemps, qui circule, qui va se spécialiser dans les lycées, les universités américaines, comme une insulte, pas forcément très très violente, mais une insulte gentille qu'on va traiter son voisin de table de geek parce qu'il serait trop bon élève, par exemple. Sinon on dirait un télo, peut-être, un truc comme ça.
Et geek et un télo,
oui,
faut voir.
Disons qu'il y a des proximités. C'est souvent le bon élève, le geek, hein, dans l'imaginaire collectif.
Oui, avec des lunettes,
Avec des lunettes, voilà, un appareil dentaire.
Qui fait de la lèche, comme
tous ceux qui ont vu des séries télé américaines, justement, on en parlait, ont une image de cette idée-là, le club d'échecs, et, le jeu de rôle,
etc. Mais alors, justement, il y a des mots qui empiètent un peu sur le terme geek. C'est par exemple le cas de nerds. Et parfois, bien qu'il s'agisse d'un contresens, de hacker, qu'est-ce qui distingue ces trois termes parallèles?
Entre geek et nerd, je dirais que la différence a changé au cours de l'histoire. C'est-à-dire que régulièrement, ça s'inverse. Donc, ils sont vraiment, pour moi, très extrêmement proches, extrêmement cousins. Il y a des tas de débats sur Internet. On peut aller voir sur des gens qui débattent duquel ils se reprochent le plus. Moi, je rentre pas là-dedans parce qu'en effet, ils ont tout changé. Ils sont très proches. Nerd, un peu plus péjoratif aujourd'hui. Alors qu'on parle de geek culture, on parle pas de nerd culture, assez peu, en tout cas en France. Hacker, il y a une vraie différence. Hacker, il y a une idée de contre-culture vraiment très forte dans l'idée de se rapproprier la technologie pour lutter contre les grands systèmes capitalistes américains qui à l'époque étaient en train de tout privatiser. Et donc il y avait une espèce d'utopie du numérique que la culture geek a gardé, mais dans un sens plus individualiste. Dans le sens, moi je vais reprendre la technologie, mais pour mon plaisir. Alors que le hacker, il y avait vraiment une idée de politique derrière, de changer le monde.
Autre terme, alors pour le coup, la plus japonais, mais qui peut se lier, rejoindre ces termes de geek ou de nerd, le mot otaku.
Oui, c'est vrai, ça concerne un peu plus la culture populaire japonaise, donc c'est les mangas, les jeux vidéo, etc. Et otaku, ce qui est amusant, c'est vraiment dans l'étymologie pour le coup du mot, il y a vraiment cette idée péjorative de otaku, ça veut dire celui qui ne sort pas de chez lui, c'est celui qui reste dans la maison. Donc il y a cette idée de voilà, enfermement sur soi, renfermé devant son écran, devant son manga, et ça renvoie à tous les stéréotypes sur les jeux vidéo, sur même les séries télé, les films de genre qui provoqueraient de la violence ou de l'enfermement, etc.
Alors si on revient au terme geek qu'on cherche à comprendre et à définir ce soir, ce qui est intéressant et même un peu fascinant dans ce terme, c'est comment il est à la fois profondément alternatif, lié à la contre-culture, et en même temps, c'est un terme très populaire, technique, et qui se nourrit d'un univers qui est extrêmement grand public, à savoir, vous l'avez dit déjà, mais pour Star Wars, DC Comics, les films de George Lucas, donc Tolkien, Star Trek, Le Seigneur des Anneaux, etc.
C'est vrai, c'est une des caractéristiques premières cette sous-culture, contrairement à d'autres sous-cultures ou contre-cultures américaines classiques comme les hippies, les punks, etc. Dès le départ, il y avait des éléments, on va dire, très mainstream, comme Star Wars, évidemment, qui est un moment fondateur, etc., mais qui représente plein d'autres choses. Et ça a toujours oscillé entre les deux. Ce qui fait que du coup ils ont développé une manière, ce qui est aussi commun à toutes les sous-cultures, une manière d'aborder les objets. C'est-à-dire que aimer Star Wars, tout le monde peut le faire, tout le monde connaît au moins Je suis ton père, ça c'est sûr. Mais avoir vu Star Wars 10 fois, analyser les contradictions entre les différents épisodes, être allé du côté des univers transmédiatiques étendus, c'est-à-dire d'avoir lu les comics Star Wars, les romans Star Wars, ça c'est une démarche qui va être plus geek dans le sens, on va aller plus loin que le grand public justement pour dans une logique de distinction. Et puis il y a la créativité derrière. Pas un geek n'a pas voulu faire son scénario de jeu de rôle autour de Star Wars, justement, n'a pas voulu créer son petit jeu vidéo avec des petits moyens ou faire son film dans son jardin. Et donc, c'est ajouter une pierre à l'édifice que ne fera pas le grand public.
Alors, j'en reviens au fond à la question qui est un peu un fil conducteur de cette définition des geeks. Est-ce que c'est un mot, est-ce que c'est un terme positif ou péjoratif aujourd'hui?
Eh bien, c'est les deux aujourd'hui.
Ou ni l'un ni l'autre, finalement.
Oui, c'est ou ni l'un ni l'autre. Disons que c'est toujours un peu les deux. On peut, au quotidien, dans les discussions entre amis ou autres, se traiter de geek. Dans ce cas-là, ça va être une petite insulte en disant, c'est en général quand justement on est hyper expert dans un domaine et qu'on dit non mais t'es vraiment un geek de ça. Mais quand on revendique une culture geek, il y a vraiment une espèce d'idée d'identité forte qui est aussi liée au côté péjoratif, c'est-à-dire dire on est un groupe, donc on a une voix, donc on est entendu et donc on doit peser. Ça c'est hyper important. Et donc du coup ça se transforme, mais comme toutes les mots très péjoratifs dans toutes les cultures comme ça ont souvent été appropriés pour être revendiqués et mis devant.
Alors, on a l'impression qu'il y a une culture geek masculine très importante, mais aussi une culture geek féminine. Il faut les distinguer ou qu'est-ce qu'elles ont en commun ?
Disons qu'il y a une culture geek féminine qui est en train de monter. Alors, il y a toujours eu évidemment des auteurs de science-fiction féministes et féminines, des grands oubliés de l'histoire de l'informatique. On en redécouvre aujourd'hui des femmes codeuses, etc., qui ont inventé telle chose. Mais c'est vrai qu'il y a l'histoire de ces cultures-là est traditionnellement plutôt masculine. Et clairement, à l'origine des années 60-70, c'est une culture plutôt d'hommes blancs, même de classe moyenne un peu supérieure en général, qui essayait de construire une culture en n'étant pas des dominés. C'est aussi la première sous-culture de non-dominés à l'origine. Et donc, oui, du coup, les filles ont mis du temps à se faire entendre. Elles étaient toujours là, parce qu'elles étaient déjà là avant. Mais aujourd'hui, elles essaient d'avoir une voix. Et donc, ça apporte des choses. Ça apporte des remous aussi dans la culture geek. Mais c'est ça qui est hyper intéressant.
Alors, nous sommes sur France Culture, dans l'alphabet numérique. Et puisqu'on parle de culture geek masculine et culture geek féminine, nous avons deux prototypes de symboles, la culture geek masculine et féminine. Johan Neufnagel, directeur de Libération, et Anaïs Ginori, correspondante à Paris, La Repubblica, peut-être vos questions, vos réactions sur vous qui êtes des geeks symboliques finalement, tous les deux.
On en fait partie des 60 millions de geeks. Non, c'est pas parce qu'on a un téléphone portable.
Non, mais on a le hoodie et la barbe, ouais, c'est voilà, déjà des signes.
J'ai un peu les attributs
du parfait geek.
Du parfait geek, non, je crois que vous avez fait un très bon résumé de ce qu'est la culture geek. Aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est comment effectivement elle s'est réappropriée, qu'elle a un peu pris le pouvoir, notamment à Hollywood, ça revient à la question des séries, et comment elle essaie de se réinventer aussi dans des endroits un peu plus obscurs. C'est aujourd'hui d'essayer de découvrir la nouvelle culture geek, un truc vraiment, vraiment très intéressant.
On a Ginori.
Oui, parce qu'en fait, il faut mettre à jour continuellement. Et je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas aussi au niveau de l'âge, vous pensez que voilà, on est déjà à une ou plusieurs générations, ou est-ce qu'il y a une différence dans ça ?
Absolument, il y a des tas de différences. Bah, déjà, leur revendication est différente parce que j'ai interviewé des gens qui se reconnaissaient dans le mot geek récemment, mais qui avaient 40, 50, 60 ans, et qui, du coup, le mot geek n'avait pas un sens identitaire pour eux. Ils n'avaient aucune idée de se dire, je me revendique geek, c'est important pour moi. Ce qui est un truc beaucoup plus récent et lié peut-être aussi aux réseaux sociaux, aux choses où un endroit où on a besoin de faire des profils pour se montrer en tant qu'une identité particulière. Et donc c'est vrai qu'ils ont, il y a des différentes générations qui sont succédées comme ça, qui revendiquent différemment le terme.
Culture Geek, c'est un livre signé David Perron, c'est publié aux éditions FYP, puis c'était votre thèse, donc les geeks autour de, au fond, un laboratoire pour penser la culture et les médias, le monde, notamment des jeunes aussi d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux au mot-clé Soft Power. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast L'Alphabet Numérique sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. France Culture est 19h37. La semaine prochaine, on parlera dans l'alphabet numérique des théories complotistes. Le 28 février d'Instagram, réseau de la classe créative. Le 6 mars du cloud souverain. Et le 13 mars de EdgeRank, l'algorithme, très célèbre algorithme de Facebook. Voilà pour les sujets à venir de l'alphabet numérique. Dans un instant, on retrouve le directeur de Libération, Johan Neufnagel. Et en attendant, c'est The Abner avec le groupe suisse Kate Bostani, Castle in the Snow.
Now, my soul is running on a path that I cannot reach. My brain is turning and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am
C'était vendredi soir au Zénith de Paris, les premières victoires de la musique post-Bataclan. Et même si les récompensés n'étaient pas forcément toujours à la hauteur de ce que la musique peut produire de mieux en France, on a aimé les victoires décernées à The Evener, justement, que nous écoutons. En musique électro, c'était la catégorie dans laquelle ils ont été récompensés, ainsi que Nekfeu dans la catégorie musique urbaine. Un peu saoulé, en revanche, par l'omniprésence enrayée de Christine and the Queens, le dilettantisme quasi ringard de Johnny Hallyday, qui est même arrivé en retard sur scène, imposant la diffusion d'une vidéo à la place de son live, mais glanant quand même une pauvre victoire à l'usure, sans parler des animateurs de France 2, poussifs et pas drôles du tout. Audrey Azoulay, la nouvelle ministre de la Culture, s'est fait siffler, alors même que c'était sa première sortie publique. Bref, ces victoires 2016 ne resteront peut-être pas un grand cru, elles témoignent, diront ses détracteurs, d'un manque de vitalité de la chanson française, même si le bel hommage aux victimes du Bataclan restera un moment émouvant.
Soft Power, le magazine des internets de France Culture. Frédéric Martel.
Nous sommes avec Johan Evenagel, directeur de Libération jusqu'à 20h. Rebonsoir, Johan.
Bonsoir, Frédéric.
On a plusieurs questions. On va partir peut-être de Libération. Vous y êtes arrivé très tôt, resté 16 ans, de 1990 à 2006, avant de terminer dans ce journal à l'époque comme rédacteur en chef du web de Libération. Puis vous avez lancé le site 20 minutes en 2008. Vous avez rejoint Slate. Puis vous êtes revenu comme directeur de Libération plus récemment. On a évoqué tout à l'heure un élément de l'identité, finalement, de Libération. Parlons peut-être de chiffres un peu moins positifs. L'OJD qui mesure les ventes de Libération note une baisse d'environ 10% des ventes. Au fond, un journal qui oscille entre quoi, 60 000 et 100 000 exemplaires, kiosques et abonnements. C'est ça aujourd'hui le potentiel de vente de Libération ?
Sur papier ?
Oui.
Ah, sur papier. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que Libération a toujours été un petit journal en termes de vente en kiosque. Aujourd'hui, c'est vrai que notre JD, même si c'est stabilisé sur 2015, est effectivement montre une diffusion papier qui s'érode plus ou moins rapidement. On va pas se cacher derrière ces chiffres-là. En revanche, aujourd'hui, Libération est un journal qui met quand même le paquet sur le numérique. On sait que pour un journal comme Libération, ce qui compte, c'est de toute façon, ce sont les usages qu'en font nos lecteurs. S'ils veulent du papier, on leur donnera du papier. Et s'ils veulent du numérique, du mobile, on leur donnera du numérique, du mobile. Aujourd'hui, je préfère voir Libération comme un journal global, sans être forcément une start-up qui va éditer un quotidien. C'est aujourd'hui en tout cas ce qu'on essaie de faire, et de miser beaucoup plus sur le numérique que sur le papier. Depuis mon arrivée, et c'était aussi le sens de ma venue avec celle de Laurent Geoffrin, était de faire basculer le tipping point de Libération,
le tournant.
Voilà, vers plus d'internet.
C'est aussi la nouveauté, c'est aussi que vous appartenez à un nouveau groupe, un groupe puissant, le groupe Altice de Patrick Drahi, avec l'Express, que vous avez rejoint d'ailleurs dans les mêmes locaux, dans le 9e arrondissement de Paris. À côté de l'expansion aussi, il y a Next Radio TV, c'est-à-dire au fond BFM TV, RMC, dans le même groupe. Comment est-ce que vous voyez cette venue, est-ce que c'est forcément positif en termes financiers, mais en termes de synergie, en termes de fonctionnement, ça reste un îlot séparé, ça peut s'intégrer, ça va travailler ensemble?
Alors, c'est vrai que pour Libération, c'est compliqué. Libération, née en 73, a toujours été un journal extrêmement indépendant, qui avait toujours ses locaux, alors fermement installés rue Béranger jusqu'au mois de décembre dernier. Là, aujourd'hui, on rejoint un groupe en construction. C'est un groupe extrêmement récent. Patrick Drahi n'a acheté finalement un quotidien. La première fois qu'il a acheté un quotidien, c'était Libération en 2014. Il a adjoint l'ancien groupe L'Express Roularta pour intégrer et commencer à faire ce groupe Altice.
Rappelons que c'est numéricable SFR.
Absolument. Et qu'aujourd'hui, il est en passe d'acquérir tout ou partie du groupe d'Alain Veil. Donc c'est vrai que pour Libération, ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce qu'on va devoir apprendre à travailler avec d'autres.
Qui étaient pour une part, culturellement, pas des amis naturels. Je pense à BFM TV, je pense même à RMC.
Oui, je pense qu'effectivement, l'avantage de ce groupe-là, c'est qu'il est extrêmement riche aussi dans sa diversité. Libération restera Libération. On va pas devenir du jour au lendemain et même jamais l'Express. On va jamais travailler à devenir BFM.
Il y a des codes aux portes d'accès entre votre étage et l'étage de l'Express.
On est un peu plus intelligent que ça. Puis vous savez, la presse.
Vous voulez dire qu'il faut mettre une empreinte, c'est plus solide.
Non, mais moi je vois des gens de l'Express, j'ai des amis à l'Express, j'ai des gens avec qui j'ai travaillé à 20 minutes, à Libération avant, ça me fait plaisir de les voir, ça me fera plaisir à un moment de travailler avec eux et de partager aussi des expériences. Le journalisme aussi permet de nous enrichir mutuellement de nos expériences, donc je pense que ça c'est plutôt extrêmement intéressant et valorisant. Après, je crois que la presse française aujourd'hui, et je le répète à longueur d'interview, a un problème d'identité, et Libération doit rester Libération comme l'Express doit rester Libération, et BFM RMC resteront BFM RMC.
Une question d'Anaïs Ginori.
Est-ce que le fait d'avoir SFR derrière comme actionnaire permet aussi des synergies au niveau des accès à votre version numérique, de la diffusion?
C'est clair que pour Libération, qui a toujours été un petit journal, dont une des principales faiblesses, le talon d'Achille et sa diffusion, que ce soit numérique ou papier, d'être associé à un groupe comme SFR peut nous permettre de toucher des publics qui sont des publics qu'on ne touche plus ou qu'on a du mal à toucher. On a lancé il y a quelques jours une offre pour certains abonnés de SFR où ils peuvent avoir la version téléphone mobile de Libération. C'est certain que pour nous c'est une opportunité extrêmement importante.
Vous pensez que Libération a peiné à négocier finalement à temps le virage digital?
Je crois que c'est un des principaux échecs du journal, oui, c'est la négociation de ce virage-là. J'étais présent à Libération quand Libération a été le premier, sous l'impulsion de Frédéric Filloux et Laurent Mauriac, ex-Rue 89, aujourd'hui Brief.me, a lancé son journal en ligne. Hein, Libération.fr est le premier, sinon un des tout premiers. Ce qui a manqué à Libération, à un moment, c'est les investissements. C'est clair qu'aujourd'hui, faire de l'Internet, faire du web, avec uniquement des tout petits moyens, et c'est extrêmement compliqué pour soutenir une rédaction de 130 journalistes, ou même 200 journalistes, comme on a pu l'être il y a encore quelques mois.
Alors, vous venez de citer Rue 89. Quand on regarde Libération, au fond, un site comme Rue 89 est né d'anciens de Libération. Ces jours-ci, on annonce le lancement de Les Jours, site lancé par des anciens de Libération. On peut penser aussi à The Conversation, qui est un site extérieur, mais qui aurait pu être porté par Libération. Comment, au fond, à l'époque, Laurent Geoffrin était déjà là, comment on a raté ce moment-là, créer Rue 89 au sein de Libération, créer Les Jours au sein de Libération, peut-être accueillir The Conversation.
Ça s'est pas exactement fait comme ça à chaque fois. Hein.
Des gens qui ont aussi voulu partir.
C'est des gens qui ont voulu partir.
Il y a moyen de les conserver.
Parfois, ils reviennent.
Mm-hmm. Oui, l'occurrence, ils sont revenus au Nouvel Observateur.
Non, moi, je suis revenu. Je suis revenu. D'autres peuvent revenir. Une des grandes richesses.
Vous êtes revenu sans Slate et 120 minutes. Donc, tout seul et tout nu.
Oui, mais c'est aussi une idée aussi qui revient. C'est une idée qui part, c'est une idée qui revient. Libération, c'est un journal qui a toujours été un journal où on a fait éclore des talents. Certains sont partis, certains reviennent. On est un collectif, on est une équipe. C'est une des grandes forces du journal, c'est de faire émerger ces talents-là. Il y en a qui sont partis pour créer leur site. Je trouve ça génial que la presse française s'enrichisse de nouvelles expériences. Je trouve ça très très bien pour les lecteurs, très très bien pour les journalistes qui sont à l'origine de ces expériences. Après, ce qui est dommage, c'est pas tant que les gens soient partis. Et qu'on ait perdu des expertises, puisque en général, c'était pas forcément les gens les plus geeks des rédactions qui se sont lancés à l'assaut du numérique. C'est plutôt une envie collective, à un moment, de créer son propre média. Et ça aussi, je trouve ça extrêmement intéressant. Non, ce qui manque beaucoup et ce qui aujourd'hui est eu la chance de Libération d'être dans le groupe, d'être d'un groupe un peu plus riche que ce qui était par le passé avec des actionnaires qui étaient parfois, on dira, défaillants pour être durs. C'est qu'il fallait mettre le paquet sur le numérique et que les moyens n'ont jamais été donnés. Malgré tous les avertissements qui ont été faits par les équipes présentes à l'époque.
Anaïs Ginori.
Oui, vous avez lancé le 1er juin 2015 la nouvelle formule de Libération, donc de papier. Là, vous vous êtes donné les moyens, vous avez fait une nouvelle maquette, un nouveau chemin de fer, de nouvelles rubriques. Si un peu plus de 6 mois après, quel est le bilan? N'est-il pas décevant vu justement les ventes et...
si on regarde effectivement sur la partie vente en kiosque, on va pas se cacher que le bilan est plutôt mi-figue mi-raisin. De toute façon, on savait en lançant cette nouvelle formule qu'il fallait pas s'attendre à un regain d'achat ou de diffusion.
Peut-être
en kiosque.
Elle a évité une hémorragie plus grande finalement.
L'idée principale était, la nouvelle formule était l'aboutissement d'une recomposition complète de la rédaction. Quand on a une équipe qui se retrouve avec une centaine de départs, il faut évidemment refaire un journal complet. Et l'idée de toute façon était de faire un journal qui soit non pas un journal et un site web, mais qui soit un journal papier, le reflet finalement de son site web dans sa construction, dans sa hiérarchie. Et donc l'ensemble des équipes aujourd'hui font le site web, puis le journal. On pense le journal en fonction du web. Alors c'est parfois très compliqué parce que les attentes des lecteurs sont souvent contradictoires. On peut se dire que le lecteur de Libération, il va être extrêmement au courant de ce qui s'est passé la veille et que le lendemain, dans le journal, il a envie d'avoir un peu plus de
prospective. Et cette association fonctionne bien.
Aujourd'hui, elle fonctionne extrêmement bien. C'est en ça que cette formule est un vrai succès. C'est que les équipes de Libération font les deux.
Ça peut déboucher désormais sur, comment dire, des évolutions, une offre différente pour certains jours, par exemple, en termes d'annonces ou de projets que vous avez.
En effet, ça c'est un des projets sur lesquels on va travailler pour 2016. Il y a deux parties où Libération est traditionnellement très très fort. Il y a évidemment la réponse à l'actualité. À chaque fois que l'actualité est hors norme, Libération est un journal qui compte, un journal papier qui compte, et un site web qui compte. Évidemment, l'actualité dramatique de l'année 2015 a montré que Libération était présent pour répondre à cette actualité-là, malgré une équipe qui était en construction et qui l'est toujours, avec des jeunes journalistes et d'autres plumes plus expérimentées. Mais en tout cas, il fallait réussir ça et réussir à répondre à l'actualité à ce moment-là. Mais c'est vrai que l'autre point fort de Libération, c'est la présence dans le débat.
Donc ça veut dire que vous allez rentrer sur ces secteurs-là spécifiquement?
Donc on va se renforcer sur le web et sur le papier sur deux secteurs. Un, sur la politique, parce que l'actualité de 2016 et de 2017 va être éminemment politique.
Une campagne présidentielle, voilà, un jour particulier ou...
On pense plutôt à travailler le lundi, qui est un de nos...
Donc sur la politique.
Sur la politique. Mmh. Et puis il y aura un autre jour qu'on va renforcer, qui sera le jeudi, autour de la rubrique idées, des débats. Et de tout ce qui est non-fiction.
Il faut aller vers des sites plus verticaux, thématiques. Je ne sais pas, le New York Times, par exemple, a lancé un site intéressant, dirigé par Tina Brown, Women in the World, qui est un site de niche consacré aux femmes et au combat des femmes. Est-ce qu'il faut que vous alliez dans cette direction de sites verticaux, par exemple?
Je pense que c'est effectivement un des avenirs du journal. Aujourd'hui, Libération Papier est un journal généraliste qui s'intéresse à toute l'actualité. Ses lecteurs sont des lecteurs qui sont habitués à lire un quotidien en papier, donc généraliste. En revanche, sur le web, il faut qu'on pousse au maximum, un, les niches, et deux, l'expertise journalistique sur un certain nombre de secteurs.
Quels secteurs, par exemple?
Ceux auxquels on pense sont, par exemple, effectivement, les femmes. Mais toutes les questions autour des femmes et du féminisme, et puis il y en a d'autres autour de la technologie. C'est un secteur qui est extrêmement embouteillé, hein, la technologie. Ouais, beaucoup, on parlait tout à l'heure des geeks, mais il y a évidemment tout un panel de contenus,
multitude de sites,
donc il faut que Libération trouve sa place là-dedans. Et je crois que la société française, l'avenir de la société française, ses changements, ses bouleversements, Libération a des choses à dire, en tout cas doit être le lieu central où on doit penser ces changements.
Vous imaginez des sorties papier originales? Je pense peut-être il y a l'expérience du petit Libé, hein, pour les enfants de 7 à 12 ans, quelque chose de plus spécifique pour la campagne présidentielle, par exemple.
Sur le petit Libé, c'est typiquement le genre d'expérience que je trouve absolument génial à Libération, c'est que c'est un projet qui est parti de la rédaction.
Puisque vous êtes un petit journal, vous pouvez faire le petit Libé.
Absolument. Voilà. C'est à l'initiative de ce petit Libération, trois journalistes du web qui se sont dit, tiens, il y a des choses à expliquer pour nos lecteurs les plus jeunes, et elles se sont mis en tête de créer une petite application pour le web, enfin c'était une web app, hein, pour expliquer les attentats, etc., etc. Et puis on s'est dit que devant les retours d'usage et d'expérience de nos lecteurs, qui manifestement avaient des enfants et des petits-enfants, il fallait pousser dans cette voie-là. Et donc là, on va travailler dans les semaines à venir à mettre le paquet sur ce journal qui sera probablement un hebdomadaire.
Et sur la campagne présidentielle, quelque chose de pourrait être imaginé?
Sur la campagne présidentielle, oui, je pense qu'on va beaucoup renforcer la partie numérique sur la campagne. On va faire probablement, je fais des annonces un peu prématurées, mais on va mettre le paquet sur la campagne et sur la politique à partir du web, oui.
On a entendu parler aussi d'un projet d'émission, c'est un bruit qui circule, vous allez peut-être le confirmer, une chaîne qui s'appelle I24 News, qui se trouve être la chaîne franco-israélienne de Patrick Drahi, justement, dont le siège est installé à Tel Aviv, plus précisément à Jaffa, au sud de Tel Aviv, dans la banlieue de Tel Aviv, mais aussi à Paris, avec une émission, on annonce, qui serait animée par Paul Amar, qui a été embauché par I24, avec Laurent Geoffrin et Christophe Barbier comme intervenants. C'est quelque chose qui existe, même que le projet de l'IBTV semble enterré.
Le projet de l'IBTV est un projet qui à un moment est sorti par Pierre Fadenrach, qui est un dirigeant de Libération, qui est un ancien spécialiste de la télévision, qui s'était dit, mais pourquoi est-ce que Libération n'aurait pas sa propre télé? Alors pas forcément en TNT, mais ça aurait pu être sur le câble. C'était avant que Patrick Drahi soit en discussion avec BFM, donc évidemment les choses changent vite aussi dans ce groupe. Là, aujourd'hui, iTélé est à l'origine de cette émission de télé qui n'est qu'une simple émission de télé d'un show politique classique animé par les deux patrons de l'Express, donc Christophe Barbier et de Libération Laurent Geoffrin. Ce n'est que ça.
D'ailleurs, il y a eu aussi Radio Libé. Vous avez aussi.
Il y a eu Radio Libé, c'est une longue histoire, puisqu'elle est née. J'étais pas encore tout à fait partie de Libération en 2006. Elle est impulsée par quelqu'un qui travaille aujourd'hui à France Culture, qui est Florent Latrive. Ensuite, il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites, qu'on a arrêtées, qu'on a redémarrées, notamment en 2014, je crois. Avec aujourd'hui, on a un canal sur la radio numérique terrestre. Bon, voilà, Libération multiplie les expériences, multiplie les labos, c'est aussi comme ça qu'on avance. On va voir si ça... Voilà, on lance des projets et puis on verra ce qui retombe et qui sont les
performants. Johan Ufnagel, patron de Libération, est mon invité jusqu'à 20h. On est presque au bout de cette émission. Peut-être une ou deux remarques pour conclure sur les évolutions qui dépassent de loin Libération. Vous avez fait quelques annonces importantes pour l'avenir du journal, mais on sait aujourd'hui qu'on lit la presse sur Facebook, notamment avec Instant Article, que Libération vient de rejoindre depuis 15 jours. Il y a Snapchat qui propose à travers le format Discover des articles également et d'autres messageries. Comment vous voyez ces évolutions? Pourquoi vous avez choisi d'être sur Instant Article avec Facebook, par exemple, au risque?
Alors, on a choisi, on a tapé très très fort à la porte de Facebook en disant on veut en être. Non, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si ça fait pas forcément toujours plaisir, notamment aux plus geeks d'entre nous, d'être dans un monde qui, on a l'impression, qui se ferme un peu à ces grandes plateformes, les fameux GAFA, il n'empêche qu'aujourd'hui, Facebook, je crois que c'est quasiment presque 2 milliards de comptes dans le monde, et qu'en France, Facebook est un des endroits où on lit la presse. Et qu'il faut tenir compte de cette évolution. Instant Article est un système qui permet de lire, de télécharger les articles des journaux beaucoup plus rapidement, notamment, enfin, en tout cas, c'est sur le mobile.
Au sein même de Facebook.
Au sein même de Facebook.
On reste dans l'univers Facebook.
La vitesse de chargement est énorme. Elle montre bien à quel point la presse aussi s'est plantée technologiquement dans les choix qu'elle a pu faire en multipliant les scripts et les appels vers les serveurs de pub. Bon, je vous passe les détails. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Facebook est comme avec Google, un des principaux fournisseurs de trafic. Ça pose beaucoup beaucoup de questions sur les usages, ça pose beaucoup de questions sur le business des sites d'info. Mais en tout cas, ce qu'on a appris avec la révolution numérique, c'est que le client était plus roi que jamais et que c'est lui qui choisissait comment est-ce qu'il voulait lire la presse. Et qu'aujourd'hui, ça passe beaucoup par Facebook, bien plus que pour l'instant Snapchat, qui est quand même un outil. Alors tout le monde veut y aller, là aussi, tout le monde tambourine à la porte, ça se fait beaucoup, en tout cas aux États-Unis.
Pour toucher un jeune lectorat de 12-18 ans.
Voilà, alors il faut toujours attention avec le lectorat dit jeune, hein, il faut savoir aussi lui parler avant de lui proposer des programmes qu'il va apprécier.
Vous avez accueilli, lorsque Libération était encore rue Béranger, vous avez accueilli Charlie Hebdo, juste après les attentats. L'épisode Charlie Hebdo, au fond, cet accueil dans l'urgence faisait partie aussi de votre ADN, la liberté était protégée. Vous avez fait aussi cela, c'était presque naturel, et ça reste une expérience forte pour le journal.
Ah, je crois que c'est une expérience individuellement et collectivement extrêmement forte. Le 7 janvier restera évidemment un moment extrêmement fort dans la carrière de tous les journalistes de Libération. Il faut savoir que le plan social de Libération venait de se terminer la veille et que je connais beaucoup de gens qui sont même revenus à Libération pour pour être présent à ce moment-là ou qui aurait aimé le revenir parce que la grande famille du journal avait besoin d'être de soudée et puis d'accueillir nos amis de Charlie.
Et sur ce sujet, je renvoie au livre d'Anaïs Ginori, qui était notre chroniqueuse ce soir, qui s'appelle Le kiosquier de Charlie. Elle raconte l'histoire de ce kiosquier Patrick qui tenait le kiosque de Saint-Germain-des-Prés où les dessinateurs Cabu et Wolinski venaient acheter leurs journaux et qui se trouve avoir été tout simplement quelques heures après braqué. Sa voiture a été braquée par les frères Okouachi. Donc une histoire publiée aux éditions de l'Équateur, des Équateurs, Anaïs Ginori, Le kiosquier de Charlie. On se quitte avec Beyoncé qui a fait l'actualité cette semaine depuis sa prestation dimanche dernier au Super Bowl. La chanteuse américaine a rendu public son titre Formation qu'on écoute à l'instant, suscitant le débat. Chanson en faveur de la fierté noire. Beyoncé y dénonce la brutalité de la police, les effets de l'ouragan Katrina ou encore le racisme qui demeure dans l'Amérique de Barack Obama. Merci à Joanne Vinagel d'avoir été notre invitée ce soir.
Merci Frédéric.
On en reste là. Merci à David Perron, auteur de Culture Geek, et donc à Anaïs Ginori de La République. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, à la régie Clément Daté. Soft Power, une émission de Frédéric Martel, réalisée ce soir par Olivier Guérin. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.